Il est 18h30 ici à Paris. Allez, bonsoir à tous. Ce soir, c'est Mardi Politique sur RFI. Dans 40 minutes après le journal de 19h, notre invitée sera Sarah El-Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Elle répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. 19h30, dans une heure, Afrique Soir, la première édition avec Zéphirin Kouadio. Le Sénégal à la une après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle. Mais pour le moment, sur RFI, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Les ONG dénoncent un nettoyage social mené actuellement à Paris. Les évacuations de campements en effet se multiplient. Les étudiants craignent que leur logement soit dans les prochains mois réquisitionné. En ligne de mire, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui auront lieu cet été. Notre question ce soir, est-ce que les JO vont constituer une régression sociale? Comment concilier organisation d'un tel événement planétaire et respect des droits de l'homme? Faut-il craindre un durcissement de la politique sociale? Un durcissement appelé à être pérennisé, à durer au-delà des JO? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Léa Filoche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe à la ville de Paris en charge des solidarités, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Face à vous, Paul Allozy, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille qui réunit 80 associations et ONG françaises travaillant avec des personnes en situation de précarité. Puis vous êtes également coordinateur veille sanitaire à Médecins du Monde. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Mélora Köpke.
Bonsoir.
Et bienvenue, géographe, ancienne chercheuse à l'université Paris-Est Créteil. Vous avez établi, on en parlera évidemment dans ce débat, un parallèle sur la politique sociale qui a été menée à l'occasion des JO de Vancouver en 2010 et la politique sociale qui est actuellement menée en vue de Paris 2024. Évidemment, on va en parler. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors je vais commencer avec vous, Paul Allozy. Pourquoi est-ce que vous dénoncez un nettoyage social, c'est un mot fort, nettoyage social.
C'est un mot fort, mais vu les destins individuels qui sont violentés là, depuis des mois à Paris, en Ile-de-France, je pense que les mots ont tout leur sens. Donc nous, vous le disiez très bien, on est des assauts de terrain auprès de toutes les personnes qui sont en situation de précarité à Paris, soit dans la rue, soit en habitat précaire et dans toute la région Île-de-France. Et donc on constate depuis des mois, il y avait déjà des politiques maltraitantes envers les personnes les plus fragiles de notre société et celles qui sont dehors. Et là on voit une accélération, on voit des nouvelles méthodes et on voit de nouveaux événements qui se font envers les publics à la rue. Et nous on les lit et on les documente, c'est totalement lié à l'organisation et à l'arrivée des Jeux Olympiques.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Et bah, par exemple... il y a le nouveau système de SAS régionaux que l'État a mis en place, donc des mises à l'abri de campements à Paris, il y en a depuis des années, mais depuis bientôt un an maintenant, dès qu'il y a des bus qui viennent pour évacuer les personnes de ces campements de misère, on les envoie uniquement hors de la région Île-de-France. Il y a quasiment plus de solutions qui sont proposées dans la région, et ça c'est bien lié à l'organisation des Jeux Olympiques.
Léa Filoche, première réaction déjà à ce premier tableau d'ensemble de la part de Paul Allozy. Vous qui êtes, je le rappelle, adjointe à la ville de Paris.
De notre côté, nous, on constate que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont forcément avoir des effets sur les personnes à la rue, les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Donc, on essaye de mettre en place les dispositifs qui permettent de les protéger. Et c'est là qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la question du vocabulaire, mais que par contre, effectivement, on est très attentif au fait qu'un événement d'ampleur mondiale ait le moins d'effets possible sur les personnes qui ont des habitudes fragiles parfois, mais qui ont des habitudes quand même, des repères. Et on sait que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont mettre à mal une partie de ces habitudes et de ces repères. Donc nous, notre job, il est double à ce niveau-là. Il est un, de permettre de garantir la qualité et la garantie de service des personnes à la rue pendant tout le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça, c'est notre objectif premier. Et le deuxième, c'est effectivement d'essayer de mettre en place quand même avec l'État, Jeux Olympiques ou pas, un rapport de force qui nous permette de pouvoir répondre et résoudre collectivement ensemble la question du sans-abrisme, qui est une réalité dans notre ville, là encore une fois, qu'on soit face à un moment important comme celui des Jeux Olympiques ou pas.
Mais est-ce que c'est résoudre ce problème que de déplacer les sans-abri vers les SAS régionaux qu'évoquait Paul Allozy? Il y en a une petite dizaine.
Alors, en vérité, nous, c'est comme ça que l'État nous a présenté cette histoire de SAS régionaux. C'est nous dire, il y a une reprise des flux migratoires sur le territoire national. Les gens vont en premier lieu à Paris pour plein de raisons diverses et variées. Et comme avant la crise sanitaire, on vous propose de mettre en place une répartition nationale des primo-arrivants sur le territoire. Dans l'absolu, moi, je ne suis pas opposée à cela. Je pense même d'ailleurs que ça a du sens quand c'est assumé politiquement et quand les moyens qui vont avec sont dédiés. Là, en l'occurrence, on le constate depuis un an, c'est pas très assumé politiquement, il faut quand même le reconnaître. L'État est très opaque dans une partie de ses procédures, dans ses chiffres, dans ses résultats de ce choix politique-là. Et en plus, c'est pas assumé financièrement, parce qu'en vérité, une partie des gens qui sont envoyés en province, mes homologues des grandes villes de France le diraient encore mieux que moi, en fait, prennent la place d'autres. Donc c'est des histoires de... Tout ça était à moyen constant. C'est juste une histoire de déplacer des personnes, ce qui, effectivement, n'a aucun sens. Ouais, et par ailleurs, nous souhaitons à la ville de Paris que prendre notre responsabilité, notre part. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait un sas à Paris qui ouvre. Ça fait un an qu'on le réclame, mais de manière très importante auprès de l'État, et que l'État refuse, mais de manière très, très ferme, d'ouvrir un sas à Paris, ce qui permettrait en plus, ça c'est mon point de vue, mais j'en suis vraiment convaincue, de pouvoir faire cette répartition nationale dans des conditions dignes, dans des conditions normales, de prendre le temps avec les personnes, d'avoir le temps de faire un point, y compris sur la question sanitaire, sur la question du parcours, sur la question des choix que la personne pourrait avoir envie de faire ou pas. Tout le monde n'a vocation à rester à Paris, c'est évident. Mais pour ça, il faut que ça se travaille, que ça se projette, que ça se construise. Et là, en l'occurrence, au coin d'un trottoir parisien, ça ne peut pas se construire dans des bonnes conditions.
Mais vous dites que l'État a du mal à assumer, mais je vous renvoie à votre poste, encore une fois, d'adjointe à la ville de Paris. Vous êtes obligé, vous, d'assumer. Vous êtes en première ligne. Vous accueillez ces Jeux Olympiques.
Ouais, absolument, mais on n'a pas en charge la question de l'hébergement d'urgence. Et d'ailleurs, on ne le souhaite pas. On souhaite que ce soit l'État qui assume la question de l'hébergement d'urgence. Ça, je pense qu'on se rejoint pas mal là-dessus avec Paul, parce qu'en vérité, ça permet de garantir l'égalité de traitement des personnes sur l'entièreté du territoire. Si on n'a pas, si l'hébergement d'urgence dépend des collectivités, vous imaginez vers quoi on va, vers une dichotomie en fonction de la couleur politique de la ville, en fonction de ses moyens, en fonction éventuellement des critères qu'elle pourra y mettre. Et c'est ça qu'on refuse de faire. Alors aujourd'hui, l'État, malgré tout, n'émule pas ni les moyens ni les bons critères. Ça, c'est un choix politique. C'est son choix politique, c'est pas le nôtre. Mais pour autant, il faut que l'hébergement d'urgence continue à être de la responsabilité d'une mission régalienne. Et donc ça, moi, je l'assume tout à fait de le dire et de le penser comme ça. Par contre, derrière, les collectivités, elles peuvent faire des choses. On intervient sur la question alimentaire, on intervient sur la question de la domiciliation administrative, on intervient sur la question de la scolarisation des enfants. On peut même intervenir sur la question de l'accompagnement à l'ouverture de droits, ça on le fait, mais nous ne pouvons pas pallier le désengagement de l'État en matière d'hébergement d'urgence. On le fait quand même un peu, il faut quand même le reconnaître, parce qu'on ouvre des gymnases, parce qu'effectivement on ne supporte plus. Moi, honnêtement, ça fait 4 ans que je suis adjointe sur ces sujets-là à Paris, 4 ans qu'on voit la situation se dégrader d'année en année. On fait un décompte chaque année dès la nuit de la solidarité, où on voit le nombre augmenter de manière sensible depuis 2 ans. On est passé de 2500 en 2022, 2500 personnes décomptées en 2022 à 3500 en 2024. Donc c'est bien que la situation se dégrade, malgré les SAS régionaux. Hein, donc c'est quand même questionnant.
Les SAS régionaux, c'est quoi l'étape supplémentaire ? C'est l'étape suivante ?
Ah ben, nous, ce qu'on sait, Paul le sait encore mieux que moi, je crois, mais ce qu'on sait, c'est que les gens sont dans les SAS pendant 3 semaines, et puis ceux qui rentrent dans les bonnes cases, à la limite, ils peuvent avoir des propositions et un parcours qui se déroule localement. Ceux qui ne rentrent pas dans les bonnes cases, donc qui sont soit déboutés de leur demande, soit déjà dublinés, soit sans papier, soit relevant pas du droit d'asile, eux, ils sont remis dehors.
Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de transparence de la part de l'État sur les opérations qui sont menées aujourd'hui à l'égard des plus précaires qui vivent dans la rue le plus souvent. Et en vue, non, il n'y a pas de lien d'ailleurs que vous évoquez, vous, Paul Allozy, mais en tout cas, l'État ne le fait pas avec Paris 2024. Moi, j'ai lu ce chiffre qui vient d'ONG. Il y a eu 15 opérations d'évacuation de squat ou de campement en 4 mois, fin 2023. Et en moyenne, il y en a une. Il y en a une évacuation par mois normalement. Donc on a plus que doublé ces chiffres.
On a une période
plus.
Très intense, ouais, ouais. De septembre à décembre 2023, où sur 17 semaines, on a eu 15 opérations, donc c'était quasiment toutes les semaines. Nous, ces opérations, elles emmenaient les gens vers des vrais logements dignes, pérennes, inconditionnels, on les appellerait de nos voeux. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont triés ailleurs. Et vu qu'on parle, pour les gens qui nous écoutent, on parle beaucoup de politique, et pour peut-être vous mettre des situations très concrètes derrière ça, des exemples du terrain, mais... Très synthétiquement, je vais vous faire une semaine, là, du mardi au mardi, de nettoyage social à Paris. Qu'est-ce que c'est dans ma vie pro ? Mardi dernier, j'étais à un squat de Vitry où il y a 450 personnes. Avant, elles étaient 200, mais il y a 200 autres personnes qui étaient à un squat à côté du village olympique qui ont été dégagées et qui sont réfugiées à Vitry. Ils vont être dégagés, là, début avril, avant les Jeux. La préfète leur a bien dit qu'elle le ferait avant les Jeux. Et il y a une mère de famille qui est là, elle bosse, elle a ses papiers, elle a ses enfants scolarisés à Vitry. Et à cause des Jeux, elle n'aura aucune solution dans la région. Elle me demande qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas quoi lui répondre. Le lendemain, on débarque sur un camp campement de mineurs. 120 mineurs dans un tunnel, les flics leur disent « Vous devez partir, sinon on fera usage de la force. » Et eux demandent « Mais où est-ce qu'on va ?» Où est-ce qu'on va ? On leur donne aucune solution. 3 jours après ça, le samedi dans la nuit, je reçois des messages à 4h du matin d'un jeune Afghan qui nous envoie des vidéos de la police française en train de les réveiller à 4h du matin avec des lumières très fortes. Quand ils sortent de leur tente complètement déboussolés, on les frappe, on les gaze et eux mettent le feu à leur tente pour faire fuir la police. Et je vais finir aujourd'hui par Régis, un SDF du 17e qui m'envoie des messages en disant « Ma cabane où je suis depuis des années, on va me dégager, qu'est-ce que je fais ?» C'est ça le nettoyage social.
On va entendre Mélora Köpke, mais Léa Filoche, vous êtes adjointe encore une fois à la ville de Paris, comment vous réagissez à ça? Vous avez entendu les méthodes année encore une fois olympique. Hein.
Ouais, mais moi je condamne toutes ces méthodes-là. Évidemment, c'est pas du tout la manière dont nous on travaille en tant que ville de Paris. Là, ce sont des actions qui sont faites par la préfecture de police, qui est malheureusement à ce jour aujourd'hui à Paris tout à fait maître de ses décisions et qui assume par ailleurs très clairement ce choix-là, parce que il n'y a pas de proposition qui est faite aussi de l'autre côté de la partie, de l'autre côté de l'État, la partie qui gère l'hébergement d'urgence. Il y a zéro proposition qui est construite. Et donc du coup, on est pris un peu en étau entre, effectivement, la préfecture de police qui, elle, veut sécuriser des lieux Jeux Olympiques, machin, etc., parce qu'il y a du monde qui va y avoir. Et puis, de l'autre côté, la préfecture de région qui ne joue pas son rôle encore une fois, de proposition de lieux pour pouvoir accueillir les personnes dignement. Et là aussi, ça, moi, je le dénonce. Donc, je dénonce les deux choses. Le fait que l'État ne joue pas son rôle d'un point de vue de l'hébergement d'urgence et qu'il, du coup, il en profite, effectivement, pour dégager des gens qui n'ont rien d'autre. Rien d'autre. Faut imaginer, moi aussi je peux prendre un exemple assez concret. On a ouvert 4 gymnases pour des jeunes qui sont en recours de reconnaissance de minorité depuis 4 mois. Ce sont des jeunes qui n'ont qu'une envie, franchement, ils ont traversé la moitié de la planète. Franchement, c'est des survivants, ces jeunes-là. C'est des héros parce que c'est ceux qui arrivent vivants. Ils arrivent en pensant que le plus dur est fait. Et dans ces gymnases, ils nous racontent leur parcours, leurs histoires. Ils ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans parfois pour arriver jusqu'ici. Et ils ne sont reçus que par des dispositifs d'urgence très précaires, très sommaires, très courts. Ils sont baladés d'un interlocuteur à un autre sans avoir de solution pérenne. Dans les gymnases qu'on a ouverts, ce qui nous a beaucoup frappé avec les maires d'arrondissement concernés, avec lesquels on travaille beaucoup pour essayer de faire en sorte que ces jeunes s'intègrent bien, ben en fait, on a fait péter les scores de fréquentation de nos bibliothèques municipales qui sont à côté de ces gymnases, parce que les gamins, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller à l'école, c'est de s'instruire, c'est de se former, et c'est d'être utile. Ce temps-là, pour eux, est un temps tellement inutile et perdu, c'en est désespérant.
Donc faire place nette en vue de Paris 2024. Mais Laura Köpke, est-ce que vous avez observer la même chose lors des JO de Vancouver en 2010?
Moi, j'étais pas dans les jeux j'étais pas à Vancouver dans les jeux de 2010, mais je travaille sur le terrain à Vancouver avec des gens qui ont vécu ça, parfois qui ont vécu ça parce qu'ils étaient à la rue en 2010, ou sinon parce qu'ils travaillaient aussi avec des personnes à la rue ou qui dépendaient de l'espace public en 2010, et qui me confirment que oui, et comme géographe, je sais bien que des processus qui se passent à Paris se sont passés ailleurs, et oui, on a vu à peu près la même chose, et on a aussi vu, et je veux constater aussi que je confirme ce que disent aussi les autres deux, parce que moi je travaille sur le terrain à Paris depuis 2015 et on voit bien tous ces processus qui sont en jeu, des bras de fer entre l'État et la ville et les crises qui se sont produites à cause de l'inaction de l'État. Et en fait, on voit que les Olympiques à Vancouver comme à Paris sont une opportunité, une ouverture pour que des nouvelles pratiques se mettent en place, et comme disait Léa Filoche aussi, que on peut en profiter, l'État peut en profiter pour faire dégager des gens et pour faire ce terme que je déteste, nettoyage social, et pour faire disparaître et
invisibiliser les problèmes. C'était le mot de Claire Hédon, la défenseur des droits. Invisibiliser.
Exactement. Exactement. Et ça, c'est confirmé. C'est dans la définition propre du nettoyage social, c'est que c'est une invisibilisation du problème, des problèmes qui existent déjà et des crises qui sont produites en fait par les pratiques ou la non-action du gouvernement.
Je vais me faire l'avocat du gouvernement de l'État. Ouais, je vais me faire l'avocat du diable, Mélora Köpke, mais est-ce que c'est pas indispensable finalement pour organiser cet événement planétaire que constituent les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques? Est-ce que, je ne dis pas de faire place nette, mais par exemple organiser une course cycliste, est-ce que la présence de sans-abri peut être la même? Comment ça peut se passer?
comment ça peut se passer. Là, on parle de possibilités et je suis certaine qu'il y a des solutions proposées qui prennent bien sûr des financements et qui ont besoin d'argent. Mais en fait, c'est une opportunité de mettre en place des possibilités pour même résoudre ou même aller à l'encontre de ces problèmes et de ces personnes différemment. Ce n'est pas un fait accompli, en fait, qu'il faut les dégager pour mettre en place des pratiques plus... plus restrictif.
C'est la question que je posais en préambule de cette émission, c'est comment est-ce qu'on peut concilier organisation des JO et respect des droits de l'homme?
Alors d'abord, la ville de Paris est une ville où il y a des événements à vocation nationale, voire internationale, très régulièrement. Oui, mais en vérité, on arrive à composer, on sait faire. Y compris, on sait faire parce qu'on connaît les personnes qui sont à la rue, on sait leur parler, on a des maraudes, on a des dispositifs, des professionnels, comme des bénévoles, qui sont au contact au quotidien avec ces personnes. Et en vérité, ce n'est pas si compliqué que ça de pouvoir faire cohabiter à la fois un événement à vocation mondiale et à la fois la vraie vie, qu'est la vie de parisienne, où il y a, et c'est la vie de toutes les capitales, où il y a des gens très riches et très joyeux, et puis des gens très pauvres et très tristes, et inversement d'ailleurs. Et donc, il faut que ces Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qu'on a voulu, nous, en tout cas, c'est comme ça que la maire de Paris l'a porté, ce sont des Jeux qui ont vocation à être inclusifs, au sens propre comme au sens figuré. Et les deux sens ont leur place, et nous, on n'a pas décidé d'organiser ni de nettoyage social, ni de dégagage des personnes, ni de déplacement, ni quoi que ce soit. On s'organise autour des personnes, autour de leurs besoins, encore une fois, en fonction des objectifs qu'on se donne de garantir la qualité de service. Je voudrais quand même dire deux choses. Au-delà de la question de l'invisibilisation, c'est la question du fantasme qu'une partie des interlocuteurs qu'on peut avoir de la part de l'État propage et qui, moi, m'inquiète plus encore que même la question de l'invisibilisation, c'est celle de l'appel d'air. On a des interlocuteurs face à nous qui nous expliquent que, en fait, c'est plus on ouvre de place, plus on crée des distributions alimentaires, plus on améliore les conditions d'accueil, plus les gens vont venir.
Ça, c'est très politique.
C'est quand même très inquiétant d'avoir des interlocuteurs de l'État qui, alors que vous vous battez pour la dignité, pour l'humanité, voire pour l'humanitaire, viennent vous dire que c'est parce que vous faites cela qu'il y a plus de personnes qui viennent. Et moi, je suis très inquiète d'entendre ça de la part d'une partie de mes interlocuteurs qui, du coup, non seulement le verbalisent, mais du coup, le traduisent en termes de politique publique. Et c'est pour ça, notamment, que l'État refuse qu'il y ait un SAS en Île-de-France, parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, c'est parce que les conditions sont agréables, confortables, et encore, hein, franchement, il faut voir certains centres d'hébergement quand même, hein, dans cette ville, que les gens viennent à Paris. Personne ne traverse la moitié de la planète à ses risques et périls pour venir à une distribution alimentaire sous le métro aérien de Stalingrad ou pour venir dormir dans un gymnase dans le 11e arrondissement. Personne. Les gens sont là. Donc il faut que les politiques publiques fassent l'objet de ce qu'est la réalité sociale de ce pays. Il y a des gens qui sont dehors, qu'ils soient avec ou sans papier, qu'ils soient avec parcours migratoire ou sans. Et il faut que nous puissions trouver des solutions qui leur correspondent.
Les Jeux Olympiques vont-ils constituer une régression sociale à la question qu'on pose ce soir? Les Jeux Olympiques de Paris 2024, évidemment. Mes trois invités, Léa Filoche, que l'on vient d'entendre, adjointe à la ville de Paris, en charge des solidarités, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Mélora Köpke, géographe, ancienne chercheuse à l'Université Paris-Est-Créteil. Et Paul Allozy, porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille, qui réunit 80 associations et ONG françaises travaillant avec des personnes en situation de précarité. La question de la précarité, elle est large, parce qu'on a parlé jusque maintenant des sans-abri. Vous dénoncez un nettoyage social avec cette multiplication des expulsions forcées. Mais on peut aussi évoquer la réquisition des logements étudiants. Les étudiants font partie des personnes précaires. Évidemment, c'est sans commune mesure avec les sans-abri. Mais il y a eu une affaire qui est portée devant le Conseil d'État, le CROUS de Paris, qui demandait la réquisition de logements étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas là un amalgame et ça répond à la question de est-ce que les JO vont constituer une régression sociale?
En tout cas, oui, nous, on le voit, c'est dans l'ADN de ces Jeux de permettre d'amplifier en fait des politiques qui sont de la régression sociale. La loi Casbarian, la loi anti-squat, c'est de la régression sociale. La loi immigration, c'est de la régression sociale. Et c'est des positions de plaidoyer que portent la quasi-intégralité des assos qui font partie de notre collectif. Faut penser aussi que nous, on n'est pas que dans la dénonciation. En fait, on nous avait promis des Jeux inclusifs avec un héritage social. On a écrit des solutions sur toutes les thématiques pour que ça se passe bien. Vous le disiez tout à l'heure, oui, bien sûr, on n'a pas envie qu'à côté des épreuves, il y ait des tentes, des gens qui soient dehors. Eh ben, il faut créer 20 000 places d'hébergement sur toute la France, dont 7 000 en Ile-de-France. Il faut un centre de premier accueil dans la ville de Paris et il faut permettre et donc payer. On peut mettre 10 millions d'euros sur la table. Le budget total des JO, dépenses et recettes, c'est 9 milliards. Nous, on demandait 10 millions pour permettre que toutes les missions médico-sociales puissent s'adapter, qu'on puisse payer les nouveaux tickets transport pour nos patients si nécessaire, engager du personnel supplémentaire si nécessaire. En fait, on pourrait faire de vrais jeux inclusifs, ce serait vraiment possible, on est la 7e puissance mondiale, c'est un budget de 9 milliards, je le répète, mais en fait, c'est pas ça. L'ADN des jeux, c'est de briller dans le monde, c'est un gros événement business, et c'est l'exclusion sociale.
Et exclusion sociale, je reprends un mot qu'a dit Melora Copio, qui est fort, qui est opportunité. C'est une opportunité d'aggraver la fracture sociale, d'une certaine manière, les JO, vous le voyez comme ça?
Bah oui, on pense que c'est dans la continuité. Tout ce qui se passait déjà avant en termes d'exclusion, là, s'amplifie et nous tombe dessus avec un rouleau compresseur. Par contre, nous, on saisit aussi l'opportunité pour lutter. Parce que, bah regardez, salarié du terrain du Nassau, aujourd'hui, je suis invité pour vous parler. Il y a les médias du monde entier qui viennent regarder ce qu'on fait, CNN, le Washington Post. Et au début, on est arrivé bien gentil avec le collectif en disant on ternira pas l'image des jeux, on veut que la fête soit belle. Nous, on commence un peu à chauffer, on organise de plus en plus d'actions. En fait, si les jeux ne sont pas inclusifs et sociaux, vous inquiétez pas. On sera là pendant les Jeux aussi et on se fera remarquer.
La France, pays des droits de l'homme. Ça sonne aussi bizarre de d'évoquer ce sujet-là avec cette image qu'a le pays.
On rate une opportunité dingue. On est le pays de l'abbé Pierre, des French Doctors, de services publics, de la sécurité sociale. On aurait pu montrer ça, quoi. On aurait pu montrer ça au monde entier et faire vraiment les Jeux les plus exemplaires. Nous, aujourd'hui, on n'y croit pas du tout.
Vous n'y croyez pas, donc j'allais dire, c'est trop tard.
On y croyait il y a 6 mois, mais là, je veux dire, on fait toutes les concertations possibles, à part la mairie de Paris qui nous donne des avancées et qui bosse avec nous sur des solutions de terrain dans le cadre de ses compétences, qui ne résout donc pas du tout l'entièreté du problème. Sur le reste, on n'avance pas. Et là, tic-tac, tic-tac. Il reste 120 jours.
Et vous y croyez pas parce que la balle est dans le camp trop en amont des politiques de l'État.
Bien sûr. C'est et donc, je sais pas s'il nous écoute, mais on a un nouveau Premier ministre qui se dit efficace et pragmatique. Ouais. S'il vient appliquer nos solutions, il pourra avoir des jeux exemplaires devant le monde entier et il pourra diviser la population de sans-abri à Paris par deux juste en faisant un premier accueil dans la capitale au boulot.
Est-ce que c'est trop tard? Au début du mois de février, le revers de la médaille, dont vous êtes le porte-parole, écrivait dans une tribune au Monde, voilà, l'espoir que les pouvoirs publics et les organisateurs des Jeux prennent enfin la mesure de l'urgence sociale auquel nous puissions réagir collectivement.
C'est jamais trop tard. On sait agir dans l'urgence, on a toutes les capacités, la solidarité et les compétences pour le faire en France. Pour les personnes ukrainiennes, en 3 jours, on a mis en place 3 centres d'accueil et ça s'est super bien passé, donc on peut le faire. Il manque juste la volonté politique derrière.
Léa Filoche, qu'est-ce qui peut faire penser, encore une fois, vous êtes adjointe à la ville de Paris, et bien que ces expulsions forcées, et on n'a pas parlé, alors, puisqu'on parle de la précarité au sens large, on peut aussi parler des Parisiens, des Franciliens, avec la question du télétravail qui appelé à être généralisé, le choix des congés pour de nombreux employés, les déplacements qui vont être beaucoup plus difficiles, les transports publics qui s'envolent. Ça aussi, ça fait partie de la régression sociale.
Absolument, et c'est pas cette manière-là qu'on construit les Jeux du côté de la ville de Paris. Encore une fois, on a un objectif d'avoir de l'héritage solidaire dans le cadre de ces Jeux. On a quand même ouvert 2 centres d'hébergement sur Paris dans le cadre de l'héritage solidaire. C'est quand même pas négligeable. Ça fait 250 personnes qui ont un toit sur la tête en héritage solidaire. On essaye aussi, ça c'est ce qu'on a un peu travaillé, il y a quand même des jolies histoires, il faut quand même le dire, avec avec les services de l'État, sur des places qu'ils ont construites, enfin dont ils ont construit ils ont construit des parcours qui permettent de pouvoir s'adresser alors à des publics qu'ils ont choisis, hein, donc qui sont des publics avec papier, donc sur des parcours, mais des gens qui sont en situation d'addiction, qui ont refusé beaucoup d'autres dispositifs précédemment, qu'on connaît bien dans certains quartiers. On arrive à construire des parcours de sortie de rue assez pérennes, mais pour 200 personnes.
Mais voilà, justement, je ne vous parle pas de ce qui est fait, je vous parle de ce qui doit être fait. Ce qui peut encore être fait.
Il y a deux choses qui peuvent être faites. très facilement et qui sont rapides. C'est réquisitionner les lieux vides. Des lieux vides à Paris, il y en a plein. Il y a des milliers de mètres carrés, des bureaux, des anciens hôpitaux, des anciens lycées professionnels. Vous vous rendez compte qu'il y a 240 000 logements vides dans Paris. Là, on vous parle de 3, 4, 5 000 personnes, grand maximum. Prenons ça, la réquisition, il faut que l'État le fasse pour pouvoir, encore une fois, assumer non seulement qu'il y aura un héritage social et solidaire des Jeux Olympiques, mais aussi pour assurer que tout se passe bien. Et puis la deuxième chose à faire, très facile aussi, c'est régulariser les sans-papiers. Pardon, mais il y a quand même un moment où on peut se dire les choses. Aujourd'hui, si le système il est aussi un peu à bout de souffle d'un point de vue de l'hébergement d'urgence, c'est parce qu'on a des gens qui dorment dans les hébergements d'urgence, qui n'ont rien à y faire, mais juste parce qu'en fait, ils ne sont pas régularisés, pour plein de raisons diverses. Moi, je ne fais pas la loi, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans l'hébergement d'urgence.
Et ça montre en tout cas que cette question de la préparation sociale des Jeux Olympiques est éminemment politique. Mais Laura Köpke, il nous reste quelques minutes. Je voudrais parler de l'après-JO, parce que si là, il y a ce durcissement, cette régression sociale sur laquelle vous êtes tous d'accord, est-ce qu'elle peut être appelée à durer ? Est-ce que ça peut être un tournant pour que l'on profite, entre guillemets, de cette régression sociale ? L'expression « laboratoire » de la régression sociale a été évoquée. Qu'en pensez-vous ? Et que nous ont appris les autres JO, et je pense notamment à Vancouver 2010, puisque vous avez travaillé là-dessus ?
Ben nous, à Vancouver, on vit toujours 14 ans après avec l'après-vie des JO. En fait, il y a des choses qui ont été mises en place qui n'ont jamais parti. On va bien dire que toutes les mesures de surveillance et les nouvelles mesures de contrôle vont pas partir après. Ça, c'est assez évident et on le sait. Et on parle toujours à Paris de ces risques, mais moi, je peux vous dire que c'est pas un risque, que c'est un fait accompli, en fait. Que les choses qui sont apportées pour des mesures temporaires pour contrôler l'espace public pendant les JO, ils vont être expérimentés, mais ils ne vont pas être enlevés après. Ça, c'est des nouvelles mesures. Mais on peut aussi parler de choses plus larges, de politique de logement, politique de logement, on va parler de ça un peu. Nous, on avait été à Vancouver promis. Il y avait 37 engagements qui ont été faits par notre comité olympique pour les JO, pour faire venir les JO qui étaient aussi dits les plus inclusifs de l'histoire. Ils ont gardé que 3 de ces engagements. Et après, il y a eu un vrai échec avec les personnes et les activistes qui ont dû mettre ces politiques en garde à vue, qu'en fait, ces échecs n'ont pas été suivis. Et en fait, des promesses de logement social qui ont été faites pour nous, il y avait une promesse que le village olympique allait être transformé en logement social, ça c'est qu'un exemple, a été complètement brisée, cette promesse. En fait, les logements qui ont été construits pour le village olympique ont été vendus comme condos. Pour des investissements étrangers.
Des beaux logements.
Ces logements-là sont maintenant des Airbnb et ils sont vides, en fait. Ouais. Là, pas tous, mais on voit beaucoup ces politiques qui existent. Et je peux aussi dire très brièvement qu'à Vancouver, il existe encore une crise de logement. Ça ne s'est pas du tout arrêté. Et en fait, il est pire maintenant. Et on voit maintenant, pas que ça a été causé par les Olympiques, mais ça a été beaucoup le momentum de prise de financiarisation de l'espace du logement a été beaucoup accéléré par les Olympiques. Alors, il y a aussi, comme disait Paul, c'est jamais trop tard de mettre des choses en place, mais on peut aussi parler de ce qu'on va faire après les Olympiques pour assurer que des choses qui peuvent bénéficier vont bénéficier les Parisiens.
En tout cas, on a entendu qu'il y avait encore des conséquences aujourd'hui de Vancouver 2010. Le mot de la fin, il nous reste quelques secondes, Paul Alouzi. Est-ce que les JO, c'est pas tout simplement une vitrine des inégalités? Pendant qu'il y a ce nettoyage social que vous dénoncez, il y a l'envolée des prix Airbnb. C'est de 220 euros la nuit pour les logements Airbnb pendant les JO.
Si, tout à fait. C'est une vitrine de la fracture. Et je pense que petit à petit, ces grands événements ne se passeront plus dans des pays très démocratiques, mais plutôt dans des régimes de plus en plus autoritaires, parce qu'on voit les dégâts sociaux que ça fait, les dégâts environnementaux que ça produit. Et s'il y a un héritage social qui restera après ces Jeux, c'est la mobilisation de toutes ces assos qui apprennent à bosser ensemble. On s'est rendu à l'Arc de Triomphe avec des militants qui venaient de Vancouver. On s'est rendu ce dimanche à une action coup de poing devant le Sénat organisée par une avocate et une assistante sociale qui n'avaient jamais utilisé ces méthodes de désobéissance civile. Même quand les Jeux et les caméras du monde entier partiront, on restera surmobilisés et solidaires. derrière, et c'est comme ça que Paris est magique, hein, en un sens.
C'est bien de conclure sur cette phrase-là. Les JO vont-ils constituer une régression sociale? En tout cas, oui, vous nous dites. Ou en tout cas, pour qu'ils ne le constituent pas, il faut une sacrée volonté politique. Ce sera le mot de la fin. Merci Paula Lozzi, porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille. Léa Filoche, merci. Merci. Adjointe à la ville de Paris. Et merci à Mélora Kopke, géographe. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat du jour qui est déjà terminé.